Oh, ben, salut Olivier, comment ça va?
Salut, ça va bien toi?
Ben, ça va bien, merci. Écoute, merci de venir sur le CapGPT podcast aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
Écoute, je commencerai aujourd'hui. En fait, on est le 26 juillet pour ceux qui vont nous écouter plus probablement en septembre. Aujourd'hui, OpenAI annonce SearchGPT. J'ai vu que justement aujourd'hui, ça avait publié là-dessus. Je pense que ça a rapport en fait directement avec le sujet d'aujourd'hui, de l'impact environnemental de l'IA, l'IA générative, peut-être même plus là, que ce qu'on connaît plus. Qu'est-ce que tu penses justement de faire de la recherche web avec de l'IA? On peut commencer avec ça, puis on va voir ça nous mène où.
Ouais, non, c'est une super bonne question. Puis en fait, je dirais c'est un des plus gros problèmes qui existent. Je vais citer, puis je vais parler souvent aussi de thématiques, mais qui sont abordées par exemple, Sacha Lucchini, qui est dans le fond, vraiment un leader, une leader en ce qui est attrait à l'environnement. Puis elle dit tout le temps, puis en plus, qui est Montréalais, c'est le fun. Ou qui habite ici, bref, c'est que l'environnement, c'est le risque le plus important, puis souvent, c'est jamais discuté. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, quand on parle de search, puis en fait, ce qu'on voit depuis à peu près un an et demi, c'est que il y a des technologies qui ont été développées, puis c'était des bonnes technologies. Ça fait depuis longtemps quand même avec GPT-2, même depuis les foundational models, où on se commence à créer des modèles de plus en plus gros, de plus en plus coûteux environnementalement, dans le sens ça va prendre plus de mémoire, ça va prendre plus de cartes graphiques pour être capable de pouvoir les rouler puis les entraîner ces modèles-là. Puis mais avant c'était utilisé à chaque fois qu'il y avait des prédictions qui devaient être faites. Donc c'était souvent très peu d'utilisation et c'était pas si grave que ça parce que l'empreinte environnementale était quand même faible à cause de ça. Là, après ça, tu arrives avec ChatGPT et toutes les autres versions qui sont sorties, où là, tu te retrouves à avoir énormément d'activités. Et ce qu'on remarque pas, ce qu'on réalise pas, c'est que à chaque fois que tu utilises ChatGPT, à chaque fois que tu génères une image avec Midjourney, par exemple, ben tu te retrouves à, en fond, utiliser énormément d'énergie. Puis ça, les gens, ils le savent pas. On pense parce que ça, on voit pas l'empreinte environnementale, mais c'est quand même des centaines et des centaines de GPU qui travaillent pour générer ces prédictions-là. Donc, plus tu te retrouves à l'utiliser, pire c'est. Et c'est pour ça que même que Google, je pense, il y a 2 semaines, qui a annoncé que, à cause de l'IA générative puis de l'engouement autour de ça, ils pensent pas être capables d'atteindre leurs objectifs environnementaux, parce que c'est trop populaire et c'est trop demandant énergétiquement. Donc ici, quand on regarde un SearchGPT, ben, on peut voir, dans le fond, ça va exacerber encore plus cette pression-là, parce qu'on se retrouve à avoir d'en faire à chaque fois qu'on va avoir une petite recherche à faire, à place d'utiliser, par exemple, Google, on l'utilise à tous les jours. Je ne sais pas pour toi, moi j'utilise à tous les jours des centaines de fois par jour parfois. Donc ici, on peut penser un peu à la même chose. Ça va commencer à coûter très cher. Fait que c'est un, puis ici, juste peut-être un autre élément aussi que je veux mentionner, mais il y a un autre problème, c'est qu'on est un peu dans le néant. À quel point c'est un problème? Les compagnies ne partagent pas leurs informations sur leur empreinte environnementale. Pourtant, c'est assez facile. Ça t'a pris. C'est combien de GPU que tu as utilisé? Pendant combien de temps? C'est quoi ta mémoire? Donc, il y a des statistiques, il y a des éléments qu'ils pourraient partager, qui pourraient nous mettre un peu en lumière. Mais en ce moment, on ne le sait pas. Donc, moi, j'assume que ils le disent pas parce que c'est pas des bonnes nouvelles qu'ils ont à dire.
Ouais, puis tu as parlé du côté un peu plus peut-être de l'inférence. Peut-être il y a deux côtés à ce problème-là, le problème de l'entraînement, le problème de l'inférence. Peut-être tu pourrais expliquer à un auditoire moins technologique, c'est quoi les deux, c'est quoi la différence justement entre entraîner un modèle et après ça l'utiliser à grande échelle.
Oui, tout à fait. L'entraînement, en fait, l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, c'est que ça l'identifie des patterns, des tendances dans une quantité assez importante de données. Donc, ça trouve plein, plein, plein de tendances. Et par la suite, bien, ces tendances-là, on peut les reproduire sur de la nouvelle donnée. Donc, dans ce cas-ci, je peux donner un exemple. Si on prend une quantité importante de sites web, par exemple, si on prend Wikipédia et qu'on se retrouve à essayer de reproduire le texte qui est écrit dans Wikipédia, donc L'entraînement, ça va être, dans le fond, d'analyser ces textes-là. Donc, on va être capable d'identifier des tendances qui sont essentiellement les règles grammaticales, le vocabulaire, les liens entre différents éléments de vocabulaire ensemble. Et tout ça, dans le fond, c'est des millions et des millions de règles qui sont extraites et qui permet après ça, bien, quand on pose une question par rapport à un sujet donné, de générer des phrases en suivant les mêmes patterns qu'on aura identifiés. Donc, dans le fond, l'identification des patterns, c'est l'entraînement. Et par la suite, on appelle ça l'inférence quand c'est de générer, en fond, une nouvelle réponse. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va souvent voir, c'est que ça c'est très coûteux d'entraîner des modèles. En fait, c'est même un des problèmes pourquoi les compagnies ne sont pas allées de l'avant vers l'IA générative jusqu'à un certain moment. C'est parce que ça coûte des millions de dollars parfois d'entraîner un modèle parce que, dans le fond, tu entraînes sur une quantité importante d'articles et de sites web. Et ça, ben ça peut coûter, il y en a plusieurs qui vont parler, c'est potentiellement la quantité d'énergie d'une petite ville qui va être nécessaire pour faire l'entraînement d'un modèle. Donc, c'est énorme. Par exemple, en ce moment, il y a un nouveau modèle qui s'appelle Llama 3. Puis Llama 3, il faudrait que je regarde laquelle des versions. Mais c'est le plus large, en fait, qui a utilisé 16 000 GPU pour faire son entraînement et ils n'ont pas mentionné le temps requis, mais souvent, c'est des jours là, qui sont requis pour faire un entraînement. Donc, on parle ici d'une quantité importante d'énergie. Et ça, c'est dans le fond, c'est souvent un one time, c'est une fois, mais le problème, c'est que c'est jamais vraiment une fois. Moi, je me disais au départ, je suis comme, ChatGPT est parfait. Et tu l'entraînes une fois, puis après ça, ça a été coûteux. Mais après ça, tu l'utilises, puis tout le monde l'utilise. L'affaire, c'est qu'on le réentraîne, puis là, il y a un compétiteur qui crée un nouveau modèle, puis là, il y a une compétition malsaine entre plusieurs compétiteurs qui font que finalement, tu réentraînes un modèle, quoi, aux 3 mois, au mois, et ces coûts-là sont juste répétitifs, ces coûts environnementaux aussi. En plus de, dans le fond, les coûts sur l'inférence qui sont souvent un peu moins importants. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus de personnes qui l'utilisent que ChatGPT. C'est des centaines de millions de personnes qui se sont retrouvées à l'utiliser au tout début. Maintenant, c'est un petit peu plus, distribué à travers les fournisseurs de solutions. Mais c'est des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui se retrouvent à utiliser ça. Donc, on dit la mort par milliers de paper cuts. Là. C'est vraiment ça ici qu'on subit.
Ouais, c'est ça. Parce que d'un côté, l'entraînement, comme tu dis, ça doit quand même être fait aussi. Je pensais à ça en préparant les questions de l'épisode. Je me disais, au moins Llama 3.1, c'est un modèle open source, donc il peut être partagé, puis ça peut sauver peut-être à d'autres gens de ne pas l'entraîner. Dans le cas de ChatGPT ou de Google ou de Anthropic, eux, c'est des modèles fermés. Donc, en plus, chaque autre entreprise ne peut pas vraiment utiliser le modèle en tant que tel. Tu penses que une des solutions partielles, justement, c'est l'open source? Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Je dirais, c'est sûr, l'open source fait une différence. Mais il y a différentes affaires. Là. Premièrement, oui, l'open source peut aider. L'open source qui va souvent être lié avec aussi mon deuxième thème, qui serait les petits modèles de langage, comme par exemple... Gemma 2, moi je commence à utiliser beaucoup de Gemma 2, c'est plus petit, donc au niveau de l'inférence. On n'a aucune idée que ça a de l'empreinte environnementale pour l'entraînement, mais au moins après ça, pour l'inférence, ça roule sur 2, 4 GPU, c'est vraiment très très petit, donc on pourrait penser à des solutions justement qui sont beaucoup moins gourmandes en énergie. Je pense que ça serait une solution encore meilleure. Mais je dirais généralement aussi... La compétition qu'on voit présentement pour gagner des petits points de pourcentage, parce que c'est vraiment ça, c'est rare qu'on va avoir vraiment un nouveau game changer. Souvent, on va avoir des gains marginaux de performance. Ça serait le fun d'avoir une guerre comme ça pour la réduction des émissions de carbone, par exemple, de dioxyde de carbone, ou pour la réduction de la consommation. Parce qu'il y en a, par exemple, pour avoir parlé beaucoup avec l'équipe de Google, Google, il me parle souvent de, dans le fond, leur grande maîtrise de du cycle de développement. Puis eux autres, ils ont des infrastructures qui sont extrêmement optimisées pour, justement, pour réduire leur empreinte environnementale. Je dis pas que c'est parfait, mais d'être capable d'aller chercher des gains aussi dans les infrastructures, c'est aussi quelque chose d'assez important. Donc, ce serait le fun juste que ça soit visible puis que les gens commencent à, dans le fond, compétitionner là-dessus puis dire comme, regarde, j'ai maintenu le même niveau de performance, mais j'ai réussi à réduire de 20% mon empreinte environnementale. Puis de voir ça aller, ça serait vraiment intéressant.
Ouais, c'est ça. Puis si aussi il rendait public, bien, on pourrait faire des choix en tant que consommateur. Tu sais, je sais pas, peut-être qu'Anthropic est beaucoup moins efficient que Google ou l'inverse. Puis tu préfères le choix de ton modèle en plus du coût, de la qualité et tout, ben, de l'empreinte environnementale.
Tout à fait.
Tu as parlé des petits modèles de langage par rapport au grand modèle de langage qui est justement ChatGPT, qui se veut des modèles plus généraux, disons, parce que c'est un petit peu ça, c'est là l'avenir, en fait, des modèles plus spécialisés qui vont être capables de faire peut-être des moins de tâches fine-tunées puis qui vont être beaucoup plus petits.
C'est une très bonne question. Moi, j'ai tendance à penser que oui, ça devrait être le futur parce que pour plein de raisons, mais pour environnementalement parlant, il y a aussi un autre élément, c'est au niveau plus juridique, au niveau de la conformité. Des grands modèles de langage, c'est très généralisable. Ça peut faire une multitude de tâches, ce qui est bon en soi. Par contre, c'est vraiment difficile de prévenir les abus, de s'assurer de la qualité de ce qui va être retourné à l'utilisateur final. Tandis que tu prends des plus petits modèles de langage et tu te retrouves à les adapter pour une tâche très précise, comme par exemple pour la traduction, pour... dans le fond, une multitude de tâches, puis surtout aussi si on commence à avoir des façons efficaces de pouvoir les adapter, ces modèles-là, qui sortent déjà là, qu'on commence à en voir de plus en plus, ben là, après ça, tu peux te retrouver tu te retrouves en beaucoup meilleure position d'un point de vue conformité, parce que tu es capable de démontrer, regarde, cette solution-là est utilisée pour la tâche X ou la tâche Y, et je suis conforme parce que j'atteins tel niveau de performance, etc., etc. Donc, l'avenir, c'est probablement au niveau des petits modèles de langage, mais je pense quand même qu'il y a une place pour les grands modèles de langage, surtout si on réussit à justement identifier les petits points d'amélioration, puis si on réussit à les améliorer. Et c'est pas la performance en passant. Je pense pas que c'est la performance. Je pense que c'est tout ce qui est autour, c'est la sécurité, c'est la capacité, dans le fond, de créer des filtres puis des mécanismes pour bloquer certaines interventions ou certains abus. Et c'est où l'empreinte environnementale.
Ouais, non, c'est clair. Puis comme tu mentionnais un peu précédemment, là, on voit il sort des nouveaux modèles, il y a des petits pas, des petites améliorations. Il n'y a pas eu de gros, disons, jump de qualité en bon français sur les modèles GPT, par exemple, je trouve depuis entre 3.5 puis 4. Après ouais. Ça, bon, il erre un peu. Il y a personne qui fait des gros sauts. Tu as parlé aussi de Google qui a des efforts à ce niveau-là dans leur centre de données. Par exemple, j'avais vu des exemples justement d'IA, c'est pas de l'IA générative, mais des modèles prédictifs, plus du machine learning plus classique à des fins justement d'optimisation. On peut parler aussi de ce que ça peut faire de bien l'IA, puis de comment ça peut nous aider en fait à sauver potentiellement justement du carbone puis de la consommation.
Non, mais là, j'aime ça parce que je suis pas une personne super négative dans la vie. Là, je pense que c'est quand même juste important de le mettre de l'avant. Mais après ça, de là à dire, par exemple, « Oh my God, parce que oui, ça consomme de l'énergie, mais il y a tellement de positifs qui peuvent émaner de l'intelligence artificielle. » Par exemple, si on parle de ce que ça peut faire au niveau de, par exemple, l'empreinte environnementale, ça fait plein d'autres choses que ça aussi. Mais mettons qu'on dit, OK, mais ça fait quoi pour l'environnement? On sait que ça peut causer du tort pour l'environnement, mais ça peut faire aussi du bien. Par exemple, on va voir, ben comme tu l'as mentionné, ben Google, puis ça, c'était un super bon exemple, mais qui a développé des systèmes d'intelligence artificielle qui viennent optimiser leur refroidisseur, par exemple, pour leurs infrastructures. Donc, grâce à ça, ben, ils se retrouvent à réduire, dans le fond, la nécessité d'énergie pour garder, dans le fond, leurs infrastructures assez fraîches, assez froides pour éviter de, dans le fond, de brûler leur équipement. Donc, ça, c'est un exemple. Tu te retrouves à avoir aussi beaucoup d'exemples dans le domaine de l'énergie. Moi, j'ai beaucoup de conversations avec justement des grands joueurs de l'industrie pour regarder de quelle façon tu peux pousser davantage l'optimisation de, tu sais, par exemple, Hydro-Québec ou Énergir, ou tu sais, ces grands joueurs-là de l'énergie, comment est-ce qu'on est capable de pouvoir les armer pour qu'ils fournissent efficacement de l'énergie, qu'ils soient capables d'avoir plus de prédictivité pour s'assurer qu'on ait assez d'énergie, de un, et qu'on n'a pas besoin de faire des projets supplémentaires pour aller chercher plus d'énergie parce que tu as un manque de visibilité. Mais de deux aussi, comment est-ce que tu es capable de pouvoir bénéficier des sources d'énergie qui sont un petit peu plus renouvelables? Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les panneaux solaires, les éoliennes, ils se retrouvent à avoir quand même des limitations et qu'ils ne produisent pas autant d'énergie. Donc, d'être capable de dire, ben c'est pas grave si ça ne produit pas autant d'énergie, parce qu'au moins, tu es capable de savoir combien d'énergie ça produit. Et même, il existe des technologies qui permettent, par exemple, de faire pivoter les éoliennes, qui permettent de pouvoir optimiser des panneaux solaires dépendamment de la température attendue. Donc, tout ça, c'est tout des paramètres qui peuvent être optimisés grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes qui peuvent être faites. C'est sûr que là, certains experts de l'industrie vont dire, « Guys, juste vous dire, l'IA générative, c'est pas ça qui va venir vraiment aider l'intelligence, aider l'environnement, c'est plus l'IA traditionnelle. » Puis, je suis d'accord qu'il y a probablement plus de choses au niveau de l'IA traditionnelle. Par contre, moi, ce que j'aime, puis il y a un beau use case aussi avec l'IA générative, c'est, par exemple, la capacité de pouvoir aider les entreprises dans leur stratégie d'ESG, donc de stratégie environnementale. Il y a quand même des belles choses qui peuvent sortir de ça. Donc, il y a beaucoup de ESG bots, par exemple, qui sont développés, qui viennent vraiment coacher des entreprises, qui viennent coacher des employés pour qu'ils soient capables de pouvoir avoir de pouvoir optimiser leurs approches pour qu'ils soient un petit peu plus environnementales. Donc, il y a ça aussi. Puis ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est que ça vient toucher à la masse. Donc, tu peux vraiment impacter beaucoup plus d'individus que des l'IA un peu plus traditionnelles. C'est le fun d'être capable d'avoir des gains quand même des deux côtés. Donc, tu es capable d'aider les collègues, d'aider les entreprises, chaque employé d'une entreprise à être un petit peu plus responsable. Puis de l'autre côté, ben, tu te retrouves à utiliser l'IA traditionnelle pour créer des optimisations environnementales au sein des business. Donc, vraiment, tu touches aux deux volets, là.
Non, c'est clair. Puis j'allais aussi l'amener justement que l'IA générative, c'était moins justement dans l'optimisation. Mais comme tu le dis, je pense qu'il y a des super beaux use cases aussi potentiellement dans la formation, apprendre aux jeunes, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, des bots, puis potentiellement aussi d'aider la recherche. Tu sais, je pense que les chercheurs peuvent vraiment beaucoup bénéficier de ça pour résumer des textes, écrire des textes, évidemment, programmer, analyser des données. Des fois, des chercheurs ont pas beaucoup de chapeaux s'ils sont capables de se faire aider à l'analyse de données. Je pense que ça peut faire donner vraiment beaucoup de tests. Puis je pense qu'on l'a vu même que depuis la sortie de ChatGPT, il y a eu plus d'articles scientifiques qui sortent. Donc, ça peut être super intéressant. Là, je pense même qu'OpenAI parlait qu'il voulait genre automatiser de la recherche. Puis, tu sais, je pense que ça pourrait être relativement possible là, d'analyser des données, sortir des trucs, puis vouloir... En tout cas, il y a vraiment une belle opportunité
vraiment
de ce côté-là là, en recherche à suivre. Mais je vois vraiment l'IA générative, c'est ça. C'est côté données, côté rédaction pour en fait un mémoire. Je me dis, si j'avais eu ChatGPT, ça aurait été plus rapide. Mais bon, c'est clair. Sinon, c'est ça. Je ne sais pas si tu as travaillé sur des projets concrets ou qui ont été pour aider l'environnement au-dessus des exemples plus spécifiques de projets, peut-être avec l'IA traditionnelle ou l'IA générative en général.
Ben oui, par exemple, on a travaillé, nous autres, avec les épiceries métro pour les aider à prévoir la demande pour les produits périssables pour éviter le gaspillage, les pertes alimentaires, ce qui est quand même assez intéressant parce que les épiceries, c'est l'autre élément, c'est que des fois, on a pas tendance à regarder les entreprises puis dire que, tu sais, d'un peu d'ignorer le fait qu'ils peuvent aider aussi d'un point de vue environnemental, mais eux autres étaient très conscients. Plus tu achètes du stock des produits périssables, plus tu te mets à risque d'avoir à perdre de la nourriture, donc jeter de la nourriture, la gaspiller. Puis bien entendu, ils ont trouvé des techniques, là, c'est pas pour rien que maintenant tu as de la nourriture préparée. Donc, se retrouvent à quand même la réutiliser. Donc, ils la jettent pas nécessairement, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va quand même y avoir une certaine perte qui va se causer. Donc, on s'est retrouvé à travailler avec eux pour développer un outil qui va prévoir très précisément, dans le fond, la demande potentielle pour les produits périssables dans quand même assez long terme. Donc, ils sont capables de pouvoir d'acheter les bonnes quantités au bon moment pour être capable de, d'être rentable, ce qui est bien entendu un objectif, mais aussi tout en réduisant leur perte. Donc ça a été un use case assez intéressant. Sinon, un autre use case qu'on est en train de travailler présentement, mais c'est vraiment justement au niveau de la prévision de la consommation énergétique, qui est aussi un autre use case, un autre cas d'usage que j'avais mentionné précédemment. Donc, comment être capable de pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité pour prendre des meilleures actions, potentiellement utiliser justement des énergies renouvelables parce que tu as la capacité de voir c'est quoi ton niveau d'énergie que tu as besoin, puis aussi parce que les gens comprennent pas nécessairement cette limite-là, mais de l'énergie, ça se store pas facilement. Donc souvent, t'as pas un entrepôt d'énergie dans lequel tu fais juste la mettre dans le backstore puis t'as sort quand t'en as besoin. Souvent, ton énergie, t'as peur si t'es pas capable d'optimiser ton système puis de commander, puis de, dans le fond, de distribuer la bonne quantité d'énergie. Donc, ça aussi, c'est un autre élément, je dirais, directement associé à l'environnement sur lequel on travaille. Sinon, il existe aussi plein de use cases sur plein d'autres bénéfices, comme par exemple l'éducation, la redistribution de la richesse. Donc, il existe vraiment plein d'autres use cases sur lesquels nous autres, on se retrouve à travailler. Donc, l'IA, c'est bénéfique pour la société quand on sait comment bien l'utiliser puis quand on travaille sur les bonnes choses. Justement, mettre les mains à la pâte.
Ben oui, c'est ça. Puis ça peut être à la fois, comme tu disais, pour métro, rentable pour eux et en plus écologique. C'est vraiment le meilleur des deux mondes pour que ça ait du sens pour les entreprises, puis en plus ça ait du sens écologiquement là. En réfléchissant à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'environnement, j'ai trouvé plein d'idées. Tu sais, je m'étais dit probablement que, tu sais, je le sais pas moi, tu sais, il y a ILO pour Hydro-Québec. S'il y avait justement un agent conversationnel, puis je pourrais demander, tu sais, concrètement, je pourrais dire, mettons, j'habite dans un condo 4,5, voici ma situation, qu'est-ce que je pourrais faire. Tu sais, je suis sûr qu'il pourrait nous sortir des idées écologiques, pas juste genre nous donner comme des grands guidelines sur leur site, mais plus concrètement être capable de faire des choses, avec genre de maison intelligente. Ils pourraient reprogrammer créer des tools pour qu'ils programment mon lave-vaisselle pour qu'ils nettoient pendant la nuit. Justement, quand tu disais d'énergie propre qui c'est pas storable, c'est parce que justement quand il y a des pics, c'est pas le bon moment pour partir ces électros. Si on était capable d'automatiser tout ça, que ça nous prenne pas de la charge mentale de plus grâce à l'IA générative puis la programmation, ça pourrait être franchement bénéfique.
Ouais, par rapport à ILO, quelque chose d'intéressant, on a travaillé nous avec eux. Okay. Ils ont une super belle vision, tu sais, en fait, parce qu'ils sont connectés avec, par exemple, si tu décides de te connecter avec ton chauffe-eau avec tout ton système de chauffage, tu serais même capable de trouver, par exemple, des recommandations genre tu as besoin de changer telle fenêtre ou tu devrais baisser tes volets dans telle pièce parce qu'on voit vraiment des différences au niveau. Donc, de connecter, par exemple, l'efficacité de ton équipement avec la température, avec plein de facteurs, puis d'être capable de pouvoir faire des vraies propositions d'amélioration pour être encore plus éco-énergétique. Puis je sais qu'ils parlent un peu de la même chose aussi au niveau des entreprises, parce que on s'entend que dans ta maison, tu as un impact. L'impact qui est non négligeable quand même, on a tendance à penser que c'est négligeable, mais si tout le monde fait un effort, c'est bien. Sauf que des fois, tu regardes des méga gros entrepôts, là, puis un méga gros entrepôt, non seulement c'est bon pour eux parce qu'ils ont... Dans le fond, si tu es capable de réduire l'énergie qu'ils consomment, c'est un peu fatigant parce que ça coûte cher là, à un moment donné de garder un entrepôt entre 20 et 23 degrés. Mais de l'autre côté aussi, tu es capable d'avoir beaucoup plus gros gains. Donc, ils ont quand même une très belle vision. Puis, j'ai bien hâte de voir ça en action dans les prochaines années.
Ben oui, c'est clair que justement, ils ont beaucoup, j'imagine, de données aussi. Fait qu'ils peuvent travailler là-dessus pour sortir des belles tendances grâce à entre autres l'IA, là, je pense que ça peut les aider. Par rapport à si on vient plus par rapport à l'IA en général, as-tu, tu sais, comment on peut minimiser, nous, en tant qu'entreprise, notre impact d'utiliser l'IA? Penses-tu qu'il faut, tu sais, est-ce qu'il faut utiliser des modèles plus petits, justement, ou l'utiliser moins souvent, ou on est plus dans un mode testons des trucs, puis un peu laissons les entreprises fournisseurs peut-être minimiser les impacts qu'ils ont. C'est quoi ta vision par rapport à ça?
Ouais, c'est pas évident. Moi, il y a une partie de moi qui dit, ouais, on devrait réduire notre utilisation. T'sais, un peu comme on se dit, on devrait gaspiller moins, un peu, on devrait recycler, on devrait. Il y a des comportements que tu veux encourager, comme par exemple de ne pas utiliser l'IA générative pour n'importe quoi. Mais de l'autre côté, je pense que c'est important de pouvoir quand même bénéficier de cette technologie-là. T'sais, le pic pourrait, moi, je pense que ça serait vraiment problématique si on se retrouve à arrêter de bénéficier de tous ces avantages-là parce que justement les entreprises n'ont pas été capables de pouvoir optimiser encore leurs opérations puis leurs infrastructures. Donc si moi je pense apprenons à bien utiliser l'IA générative parce que si tu l'utilises bien, ben tu vas moins niaiser, tu vas arriver plus rapidement dans faire ton but. S'il y a l'opportunité justement d'utiliser des plus petits modèles, ça vaut la peine. Puis après ça aussi, c'est moi je veux vraiment pousser les organisations à avoir à dans le fond à être un peu plus transparent sur leur utilisation sur leur niveau de dépenses énergétiques puis de carbon footprint pour être capable de prendre des meilleures décisions. Mais entre-temps, je dirais c'est difficile à dire. Donc présentement, je pense c'est au moins d'être conscient que ça a un gros impact. Puis de faire quand même attention quand on l'utilise, mais en même temps, n'arrêtons pas de l'utiliser parce que on peut aller chercher des bénéfices importants aussi dans d'autres sphères. Donc, je pense que c'est juste de le garder à l'œil, puis de s'assurer qu'on met de la pression aussi sur les entreprises.
Ouais, c'est ça, parce que si on le savait, puis c'est quoi la différence en mettons justement entre pic le Opus, le gros modèle, Sonnet, le moyen modèle, est-ce que c'est 4 fois plus polluant d'utiliser le gros, puis là, sur des tâches que tu utilises tout le temps, tu devrais peut-être justement des trucs plus simples, utiliser des plus petits modèles. On n'en sait rien parce qu'ils partagent pas ça, ces chiffres-là.
Ouais, non, c'est ça, exact. Moi, mon hypothèse, c'est que quand même, ça roule sur les mêmes infrastructures, là. Fait que c'est, disons, il y a, par exemple, GPT 3.5 qui existe encore. Je veux dire, un plus petit modèle, souvent qu'on va voir aussi le nombre de, comme 7B, par exemple, ben souvent, c'est qu'il y a moins de paramètres. Donc, en théorie, c'est des plus petits modèles. Si on est capable de pouvoir faire une tâche pas compliquée, avec un petit modèle, je pense que la règle du pouce devrait être de le faire parce que ça devrait être moins demandant énergétiquement. Fait que ça, c'est peut-être une des patchs qu'on pourrait faire. Mais après ça, quand ça va être communiqué, justement, la quantité de GPU qui sont utilisés, puis l'empreinte générique, là, après ça, on va être capable d'avoir une meilleure règle. Mais pour l'instant, si ce que tu fais, c'est good enough avec GPT 3.5 ou avec un plus petit modèle, ben allons-y avec le plus petit modèle.
Ouais, c'est ça. Est-ce que de ta compréhension, mettons un modèle avec 70 millions de paramètres, puis un modèle avec 140 millions de paramètres, il va dépenser 2 fois plus à chaque appel qu'on fait au modèle?
Ben c'est pas clair, mais par exemple, ce que je commence à voir avec des surtout avec des open source, souvent ce qu'on va voir, c'est que il y a vraiment une règle de trois que tu peux faire. Comme par exemple, les Gemma, t'en as un dans les alentours de 3 000, t'en as un 2 fois plus petit que l'autre, puis il y en a un qui roule sur 2 GPU, l'autre sur 4 GPU. Donc, il semble avoir une certaine règle de trois qui se font. Donc, ce qu'on peut penser, c'est justement que c'est. Ici, c'est comme je dis, c'est vraiment une approximation, là. Mais on peut penser quand même qu'il y a moins d'infrastructures qui sont requises pour des plus petits modèles que des gros modèles. Je ne sais pas si c'est linéaire, mais il y a des signes qui me portent à croire que ça pourrait ressembler à une relation linéaire, là.
Ouais. Tu parles de Gemma, je l'ai. Est-ce que tu le roules en local, Gemma? Tu l'as essayé sur vos machines à vous ou...
Oui, je le roule en. Ben non, en fait, je le roule sur Collab.
OK.
Le rôle sur Collab, puis aussi là à travers Vertex AI, là, je pourrais le faire sur mes machines, mais j'ai pas c'est tellement rendu efficace maintenant avec Collab. Et ça, il fonctionne super bien.
C'est là que tu vois les GPU que tu utilises. Là.
Ouais, t'es capable de le voir, les requis en GPU. Avec les Mistral, avec les Llama, t'es capable aussi d'avoir un peu la même chose, parce que t'as juste à, dans le fond, t'intéresser à savoir combien de c'est quoi les requirements, là. Ils vont mentionner les requis, je les ai pas toutes par cœur, mais t'es capable quand même d'extraire cette information-là. Donc, ici, c'est comme je l'ai dit, tu sais pas c'est combien d'énergie que ça a été pris pour entraîner ton modèle, mais au moins tu sais ça en prend combien pour le rouler. Pour le rouler, moi personnellement, si un modèle d'une performance similaire qui prend moins d'efforts à rouler, c'est un type de solution que je vais vouloir promouvoir davantage dans le futur.
Ouais, exact. Puis j'avais vu des cas justement de gens, par exemple, qui commencent à faire un code d'utilisation ou en tout cas peu importe avec un plus gros modèle. Ils créent de la donnée. Après ça, ils vont aller fine-tuner en bon français un plus petit modèle. Ça réduisait peut-on les coûts vraiment de manière élevée, mais potentiellement aussi l'empreinte écologique.
Mm-hmm. Oui, exact. C'est le fun parce que c'est une relation de tout ça. Souvent, ce qui va arriver, c'est surtout quand tu utilises les mêmes infrastructures, comme par exemple, tu peux utiliser les infrastructures de Microsoft pour entraîner pour utiliser un modèle, comme par exemple un GPT-4 Turbo ou un GPT-4O, mais aussi pour utiliser un Llama 2, par exemple. Tu peux faire la même chose avec Google. Donc, tu peux utiliser les modèles pour la version Gemini 1.5 Pro ou même Ultra, mais pas au Canada, mais tu peux aussi faire avec Gemma 2, par exemple. Donc, c'est pas mal les mêmes infrastructures. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est que ton modèle, il va être moins coûteux, parce que ça coûte presque rien. Il va être beaucoup plus rapide, puis il va être moins dommageable sur l'environnement. Fait que, tu sais, c'est un triple whammy, là, si t'es capable de pouvoir utiliser dans les cas où que tu peux utiliser des technologies qui sont un petit peu plus simples, avec des modèles un peu plus petits, c'est vraiment bénéfique sur toute la ligne.
Ouais, exact. C'est probablement que, tu sais, jusqu'à un certain point, le coût, c'est un bon proxy pour l'empreinte énergétique aussi, là, parce que j'imagine que une grosse partie du coût, elle vient justement de le coût énergétique que ça a. Fait que, on peut probablement se dire que les petits modèles qui coûtent 25 cents par million de tokens sont beaucoup moins dommageables. Fait qu'en plus, tu peux sauver un peu d'argent et sauver un peu la planète, ben pourquoi ne pas le faire?
Je pense que c'est un bon proxy, t'as raison. Ouais, c'est une bonne façon de voir les choses.
Probablement que ça peut nous donner une petite idée par rapport à ça. Tu sais, des gros modèles justement qui coûtent, ben je pense le plus cher en closed source, ça doit être encore Opus de Mistral. Ben, d'Anthropique. Il doit dépenser pas mal d'électricité là, pour être au niveau de l'inférence.
Ah, puis peut-être aussi quelque chose d'autre quand même qui est intéressant, c'est aussi la quantité de la grosseur de ton prompt, la grosseur de ce que tu mets à l'intérieur fait une grosse différence aussi. Donc, par exemple, si tu utilises ton modèle, je sais que maintenant, il y en a des modèles avec des millions de tokens possiblement, donc tu es capable de rentrer des romans au grand complet dans ton prompt. Mais ça, il faut penser que, dans le fond, ça demande beaucoup plus d'énergie. Fait qu'encore une fois, je pense que le proxy, du coup, je l'aime bien. Parce que ce qui va arriver quand tu fais ça, c'est que c'est plus coûteux, ça prend plus de temps, puis c'est moins bon pour l'environnement parce que tu viens de rouler. Dans le fond, ça roule pendant plus longtemps puis ça prend plus de ressources informatiques. Donc, essayer de réduire aussi le maximum la quantité d'informations que tu rentres dans ton prompt, c'est aussi une bonne façon de pouvoir essayer d'être un petit peu plus responsable.
Ouais, c'est ça, on peut être paresseux un peu, puis justement, comme tu dis, mettre le roman au complet ou mettre des gros chunks de data pour que l'IA nous aide, mais en réduisant un peu ça, ça va réduire la fois le coût, le temps et l'empreinte énergétique derrière. Je pense qu'on va finir là-dessus. Peut-être que tu peux nous parler juste avant la fin d'un peu ce que tu fais de Movie AI, de ce que tu fais là-bas, puis si les gens justement ont besoin de solutions AI, comment ils peuvent vous contacter.
Oui, tout à fait. Ben merci pour la plug. Moi c'est Olivier Blais. Je suis cofondateur de Movie AI. Je suis aussi le chef des technologies pour l'entreprise. Donc je m'assure justement qu'on a dans le fond toutes les capacités pour prévoir et aussi pour livrer des projets d'intelligence artificielle qui sont super appliqués dans l'entreprise. Le but de Movie AI, c'est pas de faire de la recherche et développement, c'est vraiment de livrer des solutions fonctionnelles en production pour générer un bénéfice pour les entreprises du Québec. On veut démocratiser l'intelligence artificielle. On le fait déjà depuis à peu près 6 ans. On est à peu près une 60aine d'employés chez Movie AI. On travaille avec des belles entreprises comme Metro, Canam, Alloprof, Collège Saint-Anne. Vraiment plein de belles entreprises. On fait autant de la consultation pour identifier quel type de projet ou quelle tâche pourrait être livré dans des entreprises pour générer le plus de bénéfices, mais aussi on se retrouve à livrer les solutions de A à Z. Donc, merci pour la plug encore une fois.
Ben ça fait plaisir, merci d'être venu. Puis si des gens justement ils veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen, Olivier?
Ben le meilleur moyen, vous pouvez aller voir MoveAI, move.ai, pour d'en voir sur notre site web qu'est-ce qu'on fait. Puis sinon, moi personnellement, je suis très actif sur LinkedIn, donc vous pouvez me trouver Olivier Blais sur LinkedIn.
Ben parfait, merci Olivier.
Merci Charles.